Radio FMR 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 26 novembre, il fait beau, il fait chaud et Jack Bauer est à la télé. Bonjour Thomas.
Salut Xavier, salut Nicolas.
Bonjour
salut.
Nicolas, oui donc on a un petit invité un peu spécial aujourd'hui, on
en parlera.
Petit. Bon d'accord, ok, mais en tout cas en attendant, eh ben, Radio FMR comme tous les samedis ouvre avec les magazines, suppléments, week-end, BD, cinéma, télé, tiens il y a Thomas. Puis le cahier du sport, à partir de 15h, du mix avec Zarma, Faris et du reggae, 17h, vide ordure, c'est du punk, 18h, pour une fois tu peux l'ouvrir, c'est une participative, appelez le 08 05 61 580 580, 19h. Non, il y en a qui écrivent mal là sur le tableau. 20h, Last Hétéro Experience, 21h30, Quick Sky, 23h, Breakbeat Experience. Et voilà, c'est peut-être l'ouverture d'antenne la plus catastrophique et la plus explosive qu'on ait jamais faite. Enfin, je ne sais pas.
Non, on a fait pire déjà.
Oui, on a ravi d'y assister en tout cas.
Oui, enfin bon, moi je pense quand même qu'on ne pouvait pas faire mieux.
FMR, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Hein, c'est peut-être pour ça, hein. Non,
oui, peut-être,
ouais. Ouais. Bon, allez, je commence supplément week-end avec une dédicace pour un ami. C'est personnel, je ne sais pas s'il va l'écouter, voilà, mais bon, c'est comme ça. Kemori! C'était extrait de leur premier album disponible internationalement chez Roadrunner, Little Playmate. Et c'était en dédicace à Dominique Véret, qui était le fondateur de la librairie Tonkam à Paris, qui ensuite a monté donc les éditions Tonkam et qui nous a fait découvrir plein de choses, que cela soit ben, non seulement qu'il y avait aussi de la tendresse dans la manga avec les vidéos girls. Il a aussi fait Sous un rayon de soleil, il a traduit de l'auteur quand même de City Hunter. Et là, on a découvert énormément de facettes de plein d'auteurs, de dessinateurs. Il nous a fait découvrir aussi énormément de choses du Japon, et notamment donc cet album qu'il a fait importer par Roadrunner. Et il y a eu le groupe qui est venu en tournée en France, et la date à Toulouse a été une catastrophe parce que la salle était deux fois trop petite. On avait bien matraqué quand même à l'antenne, et je remercie Dominique de m'avoir fait découvrir ça. Il n'y a pas que ça. Donc voilà, tout ça c'était pour dire que Dominique Véret, il a dû partir contraints et forcés de sa boîte qu'il avait montée, de Tonkam. Et finalement, il a travaillé chez Delcourt via sa boîte de consultants qui s'appelle Akata pour monter les éditions, enfin la partie manga de Delcourt, dont on va parler tout à l'heure avec Yakitate Japan. Et maintenant, eh ben Delcourt a racheté Tonkam. Donc voilà, donc Dom, il doit sauter partout. Ouais. Donc voilà, donc je te kiffe que Dom, ça nous fait plaisir pour toi. Et puis, enfin bon, c'est un allumé, hein.
Oui, je confirme.
Tu confirmes, bon vas-y, hein, tu peux le dire. Tu peux le dire.
Non, je dis que je confirme, c'est un allumé pour l'avoir rencontré à Angoulême l'année dernière. Voilà.
Mais je l'adore, pour ça je l'adore. Thomas, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Mon maître en karaté,
oui.
Monsieur Miyagi. C'est le petit japonais, celui qui donnait des leçons sur la technique de la grue à Daniel dans Karate Kid.
Non, c'est nul comme film. Alors, bon, il est mort.
Oui, voilà. Donc, en fait, il n'y a que deux acteurs japonais dans tous les films américains d'avant les années 90. Il n'y en a que deux, en général.
Ouais, Yamako aussi.
Voilà. Et donc, Pat Morita, c'est éteint jeudi dernier.
Ah, merde.
Raison naturelle. Enfin, bon. Et moi, ça m'a fait un peu bizarre après coup en me disant, mais comment ils ont fait les guignols pour passer leur sketch sur Beru qui prend des cours de karaté le soir même. Je ne sais pas comment ils ont fait. À mon avis, c'est un hasard complet. Et puis, voilà. Bon. Vas-y Thomas, c'est parti presse. Pour RDP.
Alors, la revue de presse, on va commencer par Studio, c'est le numéro 217, le numéro de ce mois-ci. Toujours 4,50€ avec en couverture le film Joyeux Noël qui représentera la France aux prochains Oscars.
Ouais.
Avec Guillaume Canet et sa femme Diane Kruger. Et alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? On a un portrait de David Cronenberg. Alors, c'est un portrait pour les nuls, hein, ceux qui ne connaîtraient pas l'auteur de Vidéodrome. Et on a une interview, par contre, assez intéressante de Park Chan-wook, dont on parlera tout à l'heure, le réalisateur de Oldboy et de Lady Vengeance. Et on a une interview également de Bernard Campan qui est face à quelques lecteurs du magazine Studio qui lui posent des questions d'étudiants en cinéma, de spectateurs, et voilà, donc c'est assez sympa.
Est-ce qu'il faut pomper sur les nuls pour sortir de l'anonymat des inconnus ? Non, c'est
non,
ça.
Bernard Campan, oui. Voilà.
Bon, désolé.
Et surtout à l'intérieur, il y a l'invité du mois, c'est Jacques Helleux, c'est le directeur artistique de la maison Chanel, et c'est lui qui s'est occupé de faire venir les réalisateurs, les acteurs et tout pour vendre la marque Chanel numéro 5. C'est lui qui s'est occupé de faire venir Catherine Deneuve, etc. Ridley Scott, qui a fait venir Luc Besson pour réaliser la fameuse pub avec le petit chaperon rouge.
Et dessiné en prépote par Manara.
Ah, je savais pas.
Ouais, c'est Manara qui a fait les dessins.
Et donc, en fait, là, il sort un bouquin autobiographique et il dit que c'est un abécédaire et il regrette qu'il n'y ait pas de Z parce qu'à Z, il aurait mis Zappé Luc Besson. Parce qu'il se trouve que Luc Besson, ça a été le seul à lui réclamer du pognon pour mettre une photo du making-of du tournage de la pub. Le petit chapeau en rouge, alors que les autres, Ridley Scott, Polanski, Baz Luhrmann, et ben voilà, vas-y, c'est sympa. Alors, Besson, je veux du pognon en échange.
Comme quoi, certains réalisateurs ne font pas de la pub qu'uniquement pour du fric, mais aussi pour la reconnaissance, parce que c'est vrai que Chanel a toujours fait des publicités.
Oui, tu m'étonnes, oui, Ridley Scott, il a fait ça pour le pognon, ouais. Et ben, pour non. Le bouquin, en tout cas, ouais,
je veux dire, c'est qu'il y a de la reconnaissance d'un autre côté, justement, sur le travail artistique, c'est pas rien. Hein.
Voilà. Voilà. Ensuite, on continue la revue de presse avec Score.
Eh ben, on y va, Zou.
Score 2.
Je mets à fond.
Ouais. Alors, Score 2€, c'est le numéro 14, avec en couverture la belle Keira Knightley. Keira Knightley
de... Ça va, oui.
Oui, Pirates des Caraïbes, avec en tenue légèrement beaucoup débraillée d'ailleurs. Et bon, ça, c'est l'occasion de la sortie de Domino, donc un film auquel ils avaient accordé déjà un dossier dans le précédent numéro. Et surtout dans ce nouveau numéro de Score, on a plein de petites news super alléchantes concernant le cinéma. Surtout l'arrivée prochainement de Pirates des Caraïbes numéro 2. C'est dommage que du sport soit pas là parce que ça l'aurait fait rire. Il y a Choi Yun-fat dedans.
Pardon.
Il y a Choi Yun-fat dans Pirates des Caraïbes 2. Alors Nicolas, je pense que ça te dira pas grand chose. Choi Yun-fat, c'est la.
Si, quand même.
Ah, bon, d'accord. Eh ben merci.
Bah, vas-y, au hasard.
Et tu peux continuer à citer des trucs, quoi. Mais...
Ah bon, bah c'est l'acteur.
C'est pas un nom inconnu quand même.
C'est l'acteur fétiche de John Woo. Voilà, The Killer, Syndicat du crime, à toute épreuve. Et qu'est-ce qu'on a aussi ? On a The New World, c'est le nouveau film de Terrence Malick avec Colin Farrell. C'est adapté de la même histoire que Pocahontas.
Oui, ouais. Sauf que cette fois-ci, je pense qu'il n'y aura pas une édulcoration
Du script. C'est le réalisateur de La Balade Sauvage et de La Ligne Rouge, donc ça promet. On a également un nouveau film super attendu, c'est The Fountain de Darren Aronofsky. C'était le réalisateur de Pig et des Requiem for a Dream, des films sévèrement barrés qui appartenaient aussi à la Beat Generation. Donc là, c'est avec Hugh Jackman, Rachel Weisz et Ellen Burstyn qui étaient déjà dans Requiem for a Dream. Alors moi j'ai vu le trailer sur internet, c'est incompréhensible. C'est donc apparemment un mec qui a à la poursuite de sa dulcinée à travers les siècles avec plein de flashs blancs. Bon voilà, moi j'ai rien compris. Bon, ça a le mérite d'être intéressant, je pense. Voilà, on a une immense interview de Tsui Hark aussi à l'intérieur à l'occasion de la sortie de son nouveau film Seven Swords, où il réhabilite le film de sabre sans câble et sans effet numérique. Cool, donc, merci.
Oui.
Enfin, et également un dossier intéressant aussi sur cinéma et jeux vidéo. Voilà, donc
il on avait déjà eu un excellent colloque là-dessus à la Cinémathèque.
Mais enfin, je vais finir par la news, the news. On a enfin la date officielle de la sortie d'un film super attendu par la rédaction de cette émission.
Je m'inquiète.
Si je te dis le 26 avril 2006. Alors c'est peut-être la sortie de Sin City 2, mais il s'agit pas de ça. C'est un film scénarisé par Roger Avary et c'est réalisé par Christophe Gans. L'adaptation de Silent Hill. On a enfin the date officielle, hein, 26 avril 2006, et sur internet on a déjà les photos publiées donc, avec Radha Mitchell dans toutes les positions, avec une lampe torche, avec une bougie, avec des lanternes. Oui, je suis à la recherche de ma
Tomb
fille.
Raider. Non.
Mais non. Merci Xavier.
C'était quoi?
Voilà, hein.
C'était quoi?
C'était quoi? C'est Silent Hill, avec une fille à la recherche de sa une mère de famille à la recherche de sa fille. Il y a aussi Laurie Nolden.
Quoi, c'est Silent Hill. Oh Silent Hill. Oh Half-Life Night.
Quelqu'un peut lui couper son micro s'il te plaît? Non. Merde, c'est toi le réalisateur.
Bon, allez.
Voilà, donc c'était score numéro 14, score de mois de novembre, toujours 2€ et toujours sympa. Nouvelle
d'accord.
Formule.
On va peut-être passer à un truc un petit peu plus local, je vais dire, pour pas dire glocal. Bon, voilà, ok.
Bravo.
Tout le monde connaît le... Oui, je sais. Tout le monde connaît le Canard Enchaîné, et journal satirique apparaissant le mercredi hebdomadaire, et dans lequel il n'y a pas de publicité, mais uniquement des méchancetés qui sont envoyées bien tournées, avec néanmoins des informations de première main par des journalistes. Il existe plein de journaux locaux qui font ce genre d'actualité décalée au niveau local. Par exemple, il y a Cuverville à Toulon, il y a j'ai oublié tous les noms, mais à Toulouse évidemment on a Lou Satiricon, Lou Journal des Mémés qui aime Lou Cascane. Alors je ne vais pas parler de tous ceux qui sont épinglés, que ça soit Didier Carrette, Douste Blasi, Moudinque, La Connex, Parti Socialiste, enfin bon, on n'arrête pas. Une équipe qui gagne, je vais dire, en tout cas, comme d'habitude, on s'éclate. On va juste annoncer les dessinateurs qui sont là-dedans et qui travaillent à illustrer pour faire des choses qui sont toujours aussi bonnes. Il y a J.O., il y a Ba, il y a Le Rouge, évidemment, et enfin, il y a plein de dessinateurs, mais surtout... Il y a enfin une chose qu'on avait un peu peur quand on préparait nos émissions en septembre dernier. Et juste quelques mots, hein, puisque de toute façon Rascal vous en a donné une lecture en long, en large, en travers sur l'antenne de Radio FMR. On n'était pas les seuls à être dubitatifs dans certaines expositions du printemps de septembre, ni devant la facture pharaonique du marathon des mots. Il y a un dessin de Le Rouge qui résume tout à fait le, je veux dire, la chose. Et là, franchement, on est mort de rire. C'est
pour les accros au vernissage.
Voilà, exactement. Et donc quelqu'un qui s'extasie devant en fait une table avec des coupes de champagne. Ouh, magnifique. Et là franchement, non vraiment on peut pas s'empêcher de rire là-dessus. On va peut-être présenter un petit peu l'invité que l'on a fait venir, puisqu'on est très impoli et que donc on l'a laissé un peu s'installer. Il s'agit de Nicolas.
C'est Rivet. Super confortable, hein, moi je suis content d'être là.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bonjour. Donc en fait, Nicolas est là parce que c'est un dessinateur que vous ne connaissez pas malheureusement, dont vous ne connaissez pas malheureusement la signature, mais dont vous connaissez la patte. Tu es donc dessinateur, tu es aussi animateur, aussi bien en 2D qu'en 3D. Tu as créé des personnages qui sont devenus une marque commerciale, donc on ne va pas citer le nom des marques. On va juste dire qu'il s'agit d'Angelo et de Petits Démons, qui passe dans toutes les positions possibles, hein, par devant comme par derrière, c'est clair. Enfin bon, les voix du Seigneur, les voix du Seigneur sont impénétrables. Donc, puisqu'on va entamer la partie bande dessinée, tout à l'heure on va parler effectivement de bouquins très techniques sur la bande dessinée, mais en tout cas on a trouvé intéressant de te faire venir là-dessus. Donc t'hésites pas, hein, le micro t'est ouvert, tu vas pouvoir parler de ce qui te plaît, si tu as vu, si tu connais. Et donc bien évidemment t'hésites pas à nous interrompre, surtout dans ma logorée verbale. Je sais que c'est dur,
pas de soucis, mais enfin jusque là t'as coupé à chaque fois que j'ai voulu dire un truc, j'ai remarqué, c'est tout, c'est... Enfin,
ça s'appelle un cassage à l'antenne. Du sport, tu peux noter. On se fait une petite pause. Hein. I'll ask you a question. How much government tax is on a bottle of whiskey? 30 cents. 30 cents. Do you realize that if I gave up drinking, you two imbeciles would be out of a job? Now go on, get out. Get out, I said. Ça s'appelle une surprise, puisque donc on a l'organisateur des... Oh, excuse-moi, j'ai pas de mémoire des noms.
Hervé Beauroy,
Hervé Beauroy, voilà, on l'a déjà reçu à l'antenne. Enfin, c'est toi qui l'as reçu, pardon,
oui,
excuse-moi.
Moi qui l'ai reçu, oui.
Et qui organise régulièrement des événements artistiques dans plein de choses. Il fait aussi bien des concerts que des expos. Alors... Tu m'as cassé mon groove, mon bon gars. Mais bon, puisque t'es là, on va te laisser le temps de t'installer. On va y venir tout de suite après. Du sport va me haïr, on va me maudire parce qu'on va dépasser à mort. On va commencer par parler du blockbuster de Philippe Bucher. Ça sort dans la collection Série B Art of chez Delcourt. Et Philippe Bucher, ben, c'est un dessinateur qui a débuté dans l'atelier 510 TTC. C'est un Rinsois qui a bossé aux côtés des Color Twins. Et depuis que Jean-David Morvan l'a récupéré, et ben, il ne... Merci, Luce. Philippe Bucher ne peut que s'extasier du succès qu'a eu la série Sillage. C'est une bande dessinée qui cartonne énormément chez Delcourt, qui en est à 8 tomes. Je sais pas où tu as planqué le bouquin, Thomas.
Quoi ? Qu'est-ce que, de quoi tu parles ?
De Blockbuster. Donc voilà, donc on en est à 8 tomes,
embarqué, moi, hein.
8 tomes et 2 séries dérivées autour des personnages, succès critique et commercial, d'où le nom de Blockbuster pour ce artbook donc, qui vient de sortir chez Delcourt. Seule la série Donjon peut faire de l'ombre à la série Sillage, c'est dire franchement si ça cartonne à mort. Sillage marche à un tel point que Davis a droit à plusieurs séries dérivées, à énormément d'objets en 3D, énormément de choses, bref ça cartonne énormément. Dans cet artbook, on a droit aux couvertures, mais aussi aux raw, aux recherches, à des dessins rares comme des ex-libris. Sillage, c'est un univers extrêmement riche. Chaque album introduit son écosystème, ses cultures, ses aliens, ses vêtements, ses décors, avec une profondeur qui est assez inédite pour des éléments qui, finalement, ne resteront que pour un album. La série est en perpétuelle création pour représenter le très vaste univers où dérive le sillage, donc cette espèce de convoi extraterrestre avec des races déracinées dans leurs vaisseaux spatiaux absolument superbes. Navis elle-même, celle humaine qui y est dans l'histoire d'ailleurs, n'arrête pas de changer d'apparence, de physique, de coiffure, de vêtements et surtout d'humeur. Un personnage schizo qui fait baver ses fans, mais dont la malléabilité permet à Bucher de continuellement explorer de nouvelles voies. Philippe Buchet ne mâche, ne bâcle jamais un travail. Il met le temps, il varie les styles. On a une palette qui est assez large. Ça va de le romanga au comics, à l'Epic Space. Vraiment, il y a plein de styles différents de dessin qui transparaît. C'est un auteur complet qui profite de l'incroyable diversité de la science-fiction pour y créer des univers absolument foisonnants. On y découvre aussi des tests sur Spirou et Fantasio, puisqu'il était question qu'il travaille avec Jean-David Morvan dessus, et finalement, c'est pas lui qui a dessiné le scénario de Morvan. Mais aussi sur Wolverine, dont l'album est annoncé en France pour septembre 2006, s'il vous plaît, puisqu'on l'avait annoncé.
T'imagines ? Oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est énorme, quoi. Voilà. Premier tome de la collection Artbook Blockbuster par Philippe Buchet. C'est dans la collection série B Art Of chez Delcourt. À noter que l'ouvrage est bilingue français-anglais. Donc, si vous partez aux States et que Navis est en train de décoller, achetez-en une dizaine pour les revendre sur place. Je sais pas si ça vous paiera le billet retour, mais à mon avis, vous devriez faire une jolie plus-value. Donc il est arrivé à l'improviste et c'est vrai qu'on parle relativement peu de musique, enfin sauf dans un cas très particulier à cause de l'intro qu'on a passé tout à l'heure. Mais en tout cas, donc Mathieu est venu nous parler de...
Hervé,
pourquoi je pense à Mathieu ?
Non, je sais moi.
Mais... D'accord. Hervé, donc, des illustres inconnus, nous parle d'une soirée qui aura lieu samedi, non ? 15 jours.
Samedi 10. Samedi décembre, 10, voilà. En 15 jours.
Ouais, c'est ça, ouais.
Une soirée, en fait, c'est un battle qu'on organise. C'est une soirée intitulée In Progress. Donc, ça va progresser régulièrement, tous les mois. On passera un samedi de 22h à 5h du matin, donc toute la nuit, en fait, à bord de la péniche Cré de la Mouette, la nouvelle péniche des Erich, tu sais.
Du Erich Coffee, oui.
Voilà, on avait fait déjà 4 soirées au mois d'octobre. Et puis là, ça y est, maintenant, on va passer régulièrement. Et ce sera des battles DJ et VG, notamment avec Sako 7 qui fait des super visuels, la vidéo expérimentale, on va le définir comme ça, qui l'amènera sur des sets du label D-Progress, donc 3 DJ du label D-Progress. Donc on va essayer d'avoir des soirées avec un rythme, une émotion tout au cours de la soirée. On va commencer par de la musique plutôt minimaliste, minimale. Après, ça va osciller entre l'électro house, le progressive house, acide, techno, progressive trance. Enfin, on va essayer d'explorer un peu tous les domaines de la musique électronique.
Voilà, exactement.
Sinon, pour ceux qui connaissent pas du tout ce que sont les battles de VJing et de DJing, c'est que ça consiste en quoi en fait ?
C'est du back to back, tu vois.
Voilà.
Back-to-back.
Donc en fait, voilà, c'est ça, c'est le truc, c'est que ils se donnent la main. En fait, ils se donnent la main régulièrement. Donc c'est des sets assez court, une petite demi-heure, et ils se donnent la main. Donc le but du jeu, c'est pendant leur demi-heure faire monter l'émotion, le rythme musical à son apogée, et puis après ils lâchent la main au DJ suivant. Donc le DJ suivant, il faut qu'il tienne le rythme et qu'il monte encore. Voilà, donc petit à petit ça monte.
D'accord.
On
ne
sait pas où ça va s'arrêter, et l'objectif c'est de couler la péniche. Non, je rigole.
Il y en a qui vont être contents de l'apprendre.
Non, c'est une blague.
Vous écoutez Radio FMR, 12h23 minutes sur la poubelle des radios, donc merci d'être passé. J'espère quand même qu'on va en parler dans les autres émissions.
Tu as
contacté l'équipe et tout.
Voilà,
bon, on va laisser un dossier au moins là-haut.
Oui.
Et puis voilà.
Merci à vous d'avoir.
Mais il y a aucun souci, pour ça. On va continuer sur la bande dessinée, mais on va se faire un peu une petite pause là. Voilà. Thomas,
oui, Xavier.
Rappelle la date. Hein.
Alors, il s'agit d'In Progress, le samedi 10 décembre de 22h à 5h du mat. C'est à la péniche le cri de la mouette.
Voilà. Et vous écoutez Supplément Week-end, c'est à la bonne franquette sur Radio FMR. On passe à tout à fait autre chose. On va parler de manga, de bande dessinée, voilà.
Manga.
Non, j'ai plus mon jingle bien débile que j'avais à une époque. Je viens de perdre ma feuille. Non, c'est pas vrai.
Alors tu vas commencer
là,
par du Columbo, c'est ça ?
Non, ouais. Bah oui, tout à fait. Avec Détective Conan, qui est donc la série, l'une des séries. Enfin, elle a perdu son leadership, mais elle est dans le trio de tête des séries qui marchent le mieux au Japon. Détective Conan, donc, on en est au tome 48. C'est toujours Gosho Aoyama qui dirige et qui fait le scénario et les têtes des personnages. C'est dans la collection Kana chez Dargo. C'est le principe du whodunit, c'est-à-dire on a une mise en situation, on a des suspects, on a le gamin détective qui arrive avec le détective Mori qui est un incapable, impossible, etc. Et il y a un meurtre. Et il faut trouver, mais qui a fait le coup, le whodunit ?
Mais qui a fait ça ?
Et voilà, et pourquoi j'en parle alors que bon, ça va, on vous en a bastonné depuis maintenant, oula, 5 ans là-dessus. Et bien tout simplement, la bonne initiative qu'a enfin prise Dargo là-dessus, c'est de mettre l'explication pas à pas de chaque énigme, parce que c'est profondément ancré dans la culture japonaise. Il faut dire que nous avons droit à 2 énigmes d'un coup qui utilisent les particularismes de l'écriture japonaise. Je rappelle qu'ils ont 4 méthodes d'écriture. Ils ont les hiragana, les katagana, ils ont les kanji, ils ont le romanji. Donc forcément, on est un peu paumé, on comprend pas toutes les subtilités. Et donc, c'est loin d'être désagréable parce que c'est vraiment un petit cours de TP quoi sur l'écriture. Bon, les histoires, comme d'habitude, c'est du meurtre et encore du meurtre. Et la phrase que tout le monde attend, « Bon sang, mais c'est bien sûr !» Enfin bon, voilà, on va continuer. On va continuer donc, je faisais un hommage tout à l'heure à Dominique Véret qui nous a énormément fait, qui nous a enlevé la merde des yeux, hein, il faut le dire, et des oreilles. Avec une BD dont il en est l'initiative de la traduction française chez Delcourt, Yakitate Japan, un sous-titré un pain, c'est tout. Donc le premier tome vient d'arriver, c'est Takashi Hashiguchi qui le dessine. Alors c'est l'histoire d'un petit jeune qui s'appelle Kazuma Azuma, et depuis tout petit il embête ses parents qui sont riziculteurs, c'est agriculteurs du riz, pour leur faire découvrir le bonheur de manger du pain. En général c'est plutôt sacrilège au Japon à un riziculteur leur faire manger du pain. Alors évidemment, fierté nationale oblige, les Japonais ne se laissent pas convertir si facilement, parce qu'il faut dire qu'il y a le pain français, il y a le pain anglais, le pain italien, enfin le pain chinois. Donc il décide de partir à la ville, de créer le pain japonais. Il a créé donc 55 recettes de possibles pains japonais, mais il ne saurait dire lequel fera le fameux Japan. Ouais. Ah, il est bon, hein, c'est du pain de...
C'est qui veut du pain,
hein? Si, faut y aller, hein, ça se mange tel quel. Bah allez-y. Ouais. Ouais, non, mais je vais pas parler la bouche pleine, moi. Donc il décide de partir à la ville et de postuler chez Pantasia. C'est une chaîne de boulangerie de renommée nationale. Mais pour un poste, de stagiaire, il y a plus de 35 candidats qui seront départagés, tenez-vous bien, dans un tournoi filmé manière arts martiaux. Imaginez un tournoi de boulangerie manière dessin animé,
ouais,
manga.
C'est le petit chef, hein.
Ouais, en fait, ça fait trop penser à ça. Ouais,
ouais, c'est assez c'était amusant. Énorme, c'est une manga absolument étonnante parce que tout simplement, donc il n'y a pas que du manga d'adolescents qui se bat, etc. Ou du manga pour les jeunes filles. C'est une manga qui vous apprend un métier et en même temps, c'est-à-dire par exemple, ça fait partie de l'anecdotique, mais il y a une manga qui est sortie au Japon sur Carlos Ghosn, qui était le patron donc de Nissan, qui a redressé Nissan, et une manga qui sortait sur sa vie. Enfin voilà, bon, c'est un truc qu'on n'ose même pas imaginer en France, et qu'on puisse se former par la bande dessinée. C'est une manga qui a l'ambition de faire découvrir la boulangerie. C'est encore plus étonnant dans un pays dont l'aliment de base est le riz, et où le pain était découvert lors de l'occupation américaine et a donc plutôt une mauvaise connotation. C'est encore plus étonnant dans un pays où, quand on veut du pain à la française, on va l'acheter dans les pâtisseries Paul Bocuse, et où il a plus un goût de brioche que de baguette. Et je peux vous dire
quand même, là-bas c'est mangé comme dessert, hein.
Ouais, mais bon, ça fait pratiquement, si je me souviens bien, 5-6 euros quoi pour un pain qui fait 100 grammes, quoi, c'est une horreur. Et vraiment beurré, mais c'est ignoble. Alors c'est encore plus drôle quand on lit une expression comme avoir les mains solaires. On se dit, bon allez, c'est encore un délire mystique, style Dragon Ball, etc. Et ben non, pas du tout, ça fait directement référence à une expression que l'on entend encore dans nos campagnes. On dit d'un boulanger qu'il a les mains solaires quand il a les mains en fait qui sont chaudes, qui permettent à la pâte de lever beaucoup plus vite. Et donc il permet de le maler. Et c'est là où cela devient amusant, c'est quand un élément traditionnel européen, et même à la base de la nourriture française. Donc toute cette culture que l'on a oubliée depuis le règne des terminaux de cuisson seront les baguettes et les couronnes. Et non, pardon. Donc cette culture est découverte par les Japonais, mais surtout redécouverte en France par la traduction, sans le savoir, par des jeunes qui ouvriront ce bouquin. Et ben, ils vont tomber à chaque tome, à la fin, sur un dossier qui a été rédigé par Christian Vabré, s'il vous plaît, meilleur ouvrier de France 1986 en boulangerie, car c'est lui le relecteur de l'édition française.
Et tout ça pour vous dire que c'est agréable de lire une histoire aussi riche avec une traduction qui est pétrie par un artisan qui connaît son métier, qui respecte les ingrédients. Que du bonheur, mais quel bonheur, mes enfants, voilà.
Voilà, je fais une petite salutation à Mitsuha, qui fait des qui suit des cours de boulangerie et de pâtisserie en France. Donc voilà. On parle pas la bouche pleine, Thomas.
Non, non. C'est pas, c'est trop mal poli. Oh oui, c'est vrai, j'ai oublié de donner une référence. Yakitake Japan, un pain c'est tout, premier tome donc chez Delcourt, de Takashi Hashiguchi. Il est pas mauvais, hein, c'est pas.
Nicolas, t'as quelque chose à dire sur la BD ?
Sur celle-ci, hein ?
Ouais.
Comment t'appelles ça déjà ? Yakitate Japan. Un pain c'est tout. Bah j'ai juste jeté un coup d'œil, moi je trouve ça vraiment sympa au niveau graphisme quoi. Et c'est vrai que ça a l'air de vraiment faire penser au petit chef, que je trouvais vraiment délirant et sympa.
Bon bah du sport, on va mentionner aussi la natation. Si vous voulez voir des vrais combats de culinaires au cinéma, bah, il faut se précipiter vers le festin chinois. Du sport, tu l'as pas vu, je sais. Festin chinois. Ouais. Voilà, festin chinois.
Ciao Hervé.
Ciao Hervé.
Salut.
On va commencer donc à parler, puisqu'on en est au dessin animé, en bande dessinée, voilà, on va parler, on va sauter de la bande dessinée au dessin animé, avec donc un bouquin qui vient de sortir chez Erol, le dessin japanime, donc 4 tomes sont sortis, nous on a reçu les tomes 3 et 4. Alors c'était intéressant de tester le dessin japanime histoire de repartir parce qu'à côté ils font une série dessinée de la manga qui en est à son 14e tome et ça aurait été un peu pénible hein, je veux dire d'essayer de chroniquer aussi loin. Donc on va vous donner un peu les bases à partir de cette série, c'est-à-dire vous dire si cette série vous convient ou non en fonction, excusez-moi il reste encore du pain. savoir si cette série ou non est susceptible de vous aider dans le type de dessin que vous cherchez. Erol, c'est l'homologue français de Aurélie, c'est presque un anagramme à une lettre près. C'est les bouquins Erol, c'est des bouquins redoutables de précision, des manuels de référence, des ouvrages de qualité qui sont bien documentés. Ce sont surtout des ouvrages d'informatique, mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a aussi des ouvrages sur le dessin, ça en est la preuve, et sur d'autres choses. Qu'on aurait du mal à se passer autrement qu'en édition papier parce que vraiment il y a un plaisir à les lire. Les ouvrages édités par Erol, c'est comment dire ? C'est un peu comme le Lagarde et Michard en littérature française, le Dalle aux endroits, la cellule en biologie moléculaire, l'Oxford Dictionary en chimie, le Gaffio en latin, le Necronomicon en Lovecraft, enfin bon, voilà, etc. Et bref, forcément, le dessin japanime, ça ne pouvait être qu'un truc bien.
C'est clair ? Non, le seul, il y a un petit souci, c'est que cool, le dessin japonime, on s'est dit ouais, ça va faire des images clés, ça va nous apprendre à comment
comment observer le mouvement, comment le retranscrire via les dessins, comment aller à l'essentiel, etc. Sauf que dessin japanime, en fait, ils auraient dû le titrer dessin manga, parce qu'il n'est absolument pas question d'animation dans ces deux bouquins. C'est con. C'est super con. Et donc, comme on a été super déçus, on a dit, tiens, on va inviter un mec qui connaît en dessin.
C'était prévu depuis le début, oui. Donc voilà. On voulait donc faire travailler là-dessus quelqu'un dont c'est la profession. Donc Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Donc tu es aussi bien dessinateur que animateur, aussi bien en 2D et en 3D. Donc on va parler de ces personnages qui actuellement cartonnent dans nos poches et à la télé. Et d'abord on va savoir un peu quelles sont tes inspirations d'abord sur le dessin pour toi personnellement.
Alors y aurait vachement de trucs à citer, alors j'ai tâté un peu à tout en fait. Il y a une époque où j'ai justement vachement bouquiné de manga et je me suis vachement inspiré de ça. Une autre époque plus tardive, ça a été les comics, quand ça a été un petit peu renouvelé à l'époque de Witchblade et compagnie. Et beaucoup plus jeune, en fait, c'était vraiment la BD franco-belge classique, avec beaucoup de copies quand j'étais plus petit, tout ça. Et t'apprends vachement, en regardant ce que font les autres, simplement, quoi. Et puis...
Donc ça, c'est quand même le discours standard de n'importe quel dessinateur.
C'est le discours standard,
voilà,
mais je pense
bateau.
Que c'est...
Mais maintenant, on t'a passé donc ces bouquins. Ce sont des bouquins techniques où on explique... alors, il faut expliquer, c'est les tomes 3 et 4 que l'on a. Donc, les gestes du quotidien et les
exprimer
combats.
Le mouvement et l'action. Exprimer le mouvement et l'action, même si les trois quarts du livre sont du combat, en fait.
Voilà.
Les tomes 1 et 2, attends que je retrouve.
Alors c'est ça qui nous a un peu embêté. Voilà. C'est ça qui nous a un peu embêté, parce qu'en fait dans le titre américain est beaucoup plus explicite d'ailleurs. Enfin c'est assez étrange. Moi ce que je voulais savoir, c'est au vu de ces deux bouquins, est-ce que tu les as trouvés intéressants? Est-ce qu'ils t'ont aidé finalement dans ton travail?
Moi j'ai refeuilleté ça et je trouve ça. J'ai été étonnamment surpris. Parce que je m'attendais plus à voir un truc de qualité assez médiocre ou quoi, parce que j'en ai déjà feuilleté quelques-uns du même type et que c'était vraiment pas
chez
ça.
Chez le même
quoi.
Éditeur
Je ne saurais pas te dire, parce que je m'étais pas vraiment intéressé, vu qu'en feuilletant,
ça
c'était ça
intéresse
très, très vague.
Ça intéresse l'attaché de presse, là.
mais là, il y a vraiment vachement de descriptions, d'explications... disons que ça peut vraiment aider à saisir certaines choses que tu sais pas forcément observer par toi-même, tu vois, parce que c'est beaucoup d'observations de dessiner quasiment.
Mais est-ce que c'est plus proche finalement de l'animation ou du dessin statique?
Ouais, j'aurais plutôt tendance à dire que même chose, que c'est plus c'est loin d'être des cours d'animation, quoi. C'est vraiment saisir des poses, des choses, et t'as sûrement pas le tout ce qui est nécessaire pour appréhender de l'animation, quoi. Mais c'est disons que t'as au moins de la justesse dans la manière de poser tes personnages, tout ça, et je trouve ça vraiment pas mal, parce que enfin tu vois, chez beaucoup de dessinateurs débutants ou comme ça, effectivement c'est des choses qui manquent. Tu peux trouver quelque chose mais pas donner de vie. Justement, là-dedans, je lisais tout à l'heure un commentaire.
C'est pas des cours sur des proportions que l'on a, c'est vraiment des cours sur les positions, sur la manière
de faire. Sur les
poses,
ouais. Et t'as justement un commentaire d'un illustrateur dedans, qui est assez jeune d'ailleurs, et qui parlait d'animation 3D, et qui te dit que t'as besoin de vraiment rechercher de la souplesse, qu'en théorie, si tu veux, si tu te limites au corps humain tel que tu le penses, avec les articulations, tu n'es jamais juste dans les poses, si tu veux, et qu'il faut vraiment rajouter de la souplesse, exagérer des choses et tout, et que tu sais pas forcément le faire naturellement, parce que c'est difficile à observer. Et là, ça te met vraiment le doigt sur ce genre de choses, et je trouve ça plutôt bien vu, quoi.
En plus, c'est vrai, quand tu commences à dessiner, tu penses pas vraiment à « Tiens, si je plaçais l'œil de mon observateur en dessous du personnage, ou au-dessus, ou faire des plongées, des contre-plongées. » C'est vrai qu'on a tendance, surtout, quand on débute, parce que moi je suis passé par là aussi, à faire des personnages toujours de face, toujours debout, toujours la même taille. Et là, c'est vrai que ça t'apprend à faire cohabiter des personnages de tailles différentes. C'est un peu ce qu'avait fait aussi... Toriyama avec l'apprenti mangaka.
Oui, chez Glénat.
Voilà, chez Glénat. Et ça, c'est un peu la même chose. C'est vraiment, les deux se complètent, en fait.
D'accord. par rapport à des artbooks, là, tout à l'heure on a parlé du artbook de Philippe Boucher, bon, là c'est pas la peine, c'est bavade absolue. Là on est vraiment dans du dessin, je dirais, à la fois du raw, du technique et de la structure. Quel est le budget que tu mets en général pour ce genre de bouquin?
Moi personnellement, pour ce genre de bouquin, j'aurais plutôt tendance à acheter des artbooks, justement, quoi.
D'accord.
Pas des trucs vraiment d'observation comme ça et tout. Ça a pu m'arriver légèrement à une époque. J'avais trouvé des bouquins justement comme ça qui traitaient de la manière de mettre en page des BD, de savoir un petit peu trouver les bons caractères pour tes personnages, des choses comme ça. Mais c'est vraiment des trucs de base que finalement, je trouve que tu apprends plus à observer par toi-même en regardant ce que font les autres, quoi.
D'accord. D'un autre côté, maintenant que tu as eu ce bouquin, est-ce que franchement tu auras envie de le garder ou non?
Ah, j'aurais envie de le feuilleter un peu, ouais. Ouais, ouais.
Ouais, bon, d'accord, ok. Non, je le reverrai dans une semaine, je pense. C'était juste pour savoir.
Il y avait un détail intéressant que tu soulignais en antenne aussi, c'était que à la fin du bouquin, il y avait le dessinateur qui prenait des dessins que lui avaient envoyés des admirateurs, des débutants en
manga, c'est très bien, ça,
et il les corrigeait. Il mettait le modèle à gauche et juste en face, il mettait comment lui il aurait corrigé le dessin en grossissant certains détails pour donner un peu plus d'équilibre à la composition, ou comment tiens ce genou devrait être plutôt par là, etc. En respectant l'intention qu'avait voulu mettre le dessinateur débutant au départ. Donc ça c'est intéressant par contre.
Ouais,
d'accord. Nicolas, tu n'es pas venu pour rien, tu vas faire un petit peu ta promo, hein. Ceux qui viennent ici sont aussi là pour toi. Tu comptes, est-ce que tu as fait du fanzina et est-ce que tu comptes faire de la bande dessinée?
Fanzina, très légèrement, une époque en fait, j'avais entamé une BD à l'époque où j'étais au lycée, enfin bon, j'ai entamé pas mal de BD que j'ai jamais terminé. Donc il y en a deux, trois qui étaient passés dans les fanzines. Un qui était propre à mon lycée, ensuite un autre qui s'appelait Lorelai, qui avait super bien commencé, je le trouvais vachement intéressant, il y avait des commentaires super chouettes dedans, mais ils n'ont pas continué malheureusement, donc je sais pas s'ils ont fait autre chose depuis eux. Et moi perso, de mon côté, ben je dessine toujours, mais je n'ai rien produit, rien n'a été édité pour l'instant, et j'ai jamais vraiment poussé le truc pour le faire, mais je compte bien d'ici peu de temps.
Tu as un site perso où tu montes tes illustrations?
Ouais.
Tu peux donner l'URL?
Depuis peu, waouh. Alors, si je ne me gourre pas, c'est...
Eh bah tant pis, on le mettra sur le site internet de la radio.
Je crois que c'est ce qu'il faut faire, parce que je ne la connais pas encore.
C'était pas dils-art.net?
J'ai une adresse effectivement d'un site assez ancien mais avec pas mal de trucs intéressants.
Ouais.
C'est nils.art.free.fr.
Donc voilà, donc on mettra de toute façon tous les liens sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net. On mettra aussi en copie justement sur le site les informations relatives donc au programme que nous a été fourni par les illustres inconnus tout à l'heure. Et puis voilà, donc on va continuer sur la bande dessinée cette fois-ci avec... Vas-y, c'est à toi,
avec, avec un graphic novel américain qui s'appelle Concrete.
Oh non, c'est pas vrai.
C'est vrai que en fait c'est une BD qui a pas mal circulé ici. Hein. Tu l'avais chroniqué, et puis c'est vrai que du sport aussi on avait parlé, je sais. Mais c'est vrai que c'est un comic.
Ça fait.
Non, parler,
mais attends, mais c'est pas vrai quoi. Il y a du sport qui a déjà fait le coup. Refait le coup. Il revient après là.
J'espère qu'on va avoir des promos après.
Ouais, dis donc, là il est 12h45. Du sport, t'as prévu quoi toi?
Oh putain, moi j'ai vachement long. Je te signale que je peux tenir jusqu'à la nuit tranquille.
Merde. Non, parce que là on n'a pas encore entamé son dossier sur Lady. Bon, tant pis.
D'expérience sur
non,
lui.
Thomas, ok, merci. Suivant.
Alors, suivant, c'est une bonne manière d'entamer la rubrique cinéma. C'est qu'on va parler de la BD qui avait inspiré le film History of Violence de David Cronenberg. Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Non, rien, c'est à toi la bouteille.
Oui, vas-y.
Non, sûr?
Oui, bien sûr.
Non, il n'y a pas de seringue dedans, tu peux
non,
y
non,
aller.
Non, il n'y a pas. C'est, tu ne feras pas partie de pris par la patrouille. Et donc la BD History of Violence, c'est une BD c'est pas de John Wayne comme a dit Xavier la dernière fois. C'est scénarisé par John Wagner et dessiné par Vince Locke. Alors, attends, je retrouve mes notes parce que vous m'avez foutu un bordel là. Voilà. Alors, c'est histoire de Attends, je te passe la BD. Tiens, voilà. Alors, c'est l'histoire de Tom, qui est un père de famille modèle. Alors, pour ceux qui ont vu le film, vous connaîtrez un peu l'histoire. Il tient un café, et jusqu'au jour où il y a deux tueurs qui viennent foutre le bordel dans sa devanture, et il est obligé de, ben, il est obligé de se défendre. Il est obligé de défendre son employé. Et en cas de légitime défense, ben, il débute. Et ça en fait une célébrité locale, oui, le héros qui a défendu la veuve et l'orphelin, etc. Sauf que ben, sa soudaine célébrité attire des personnages pas très recommandables, notamment un trio de mafieux qui croient reconnaître dans le héros un certain Joey qui a buté le patron de ces mafieux dans sa jeunesse. Alors là, vous verrez, il y a déjà... Une petite modification par rapport au film, c'est que dans le film, ben c'était, il croirait reconnaître un ancien tueur professionnel, alors que là, c'est un mec qui aurait.
Spoiler, on va arrêter. Quoi ?
Bah non, c'était dans le pitch et on en avait parlé.
Ah, bon, d'accord, ok.
Voilà, et dans la BD, ben en fait, c'était pas un tueur professionnel que les méchants croient reconnaître, ce serait. Juste un jeune qui aurait eu des démêlés avec leur mafia, je crois que c'est à New York d'ailleurs, il me semble. Voilà, alors bon, ça c'était la différence par rapport au film. Et qu'est-ce qu'on a ? On a un dessin extrêmement nerveux, fait de hachures, un peu de dessin d'observation, ça fait un peu penser. Et c'est vraiment extrêmement. Ce qui frappe, c'est le côté nerveux en fait. C'est des paysages esquissés, il va directement à l'essentiel. C'est du...
même dans l'histoire, elle est assez ramassée, hein, étonnamment.
L'histoire est assez ramassée, c'est vrai que par rapport au film, il y a la moitié du film est comprise dans les 10 premières pages.
Et le bouquin fait dans les 200 pages.
Ah ouais,
pages,
il est assez volumineux, c'est, le bouquin. Et la différence, c'est qu'on apprend beaucoup plus sur le passé du héros, en fait. C'est beaucoup plus relaté, alors que dans le film, c'est juste évoqué. Mmh. Et là, c'est vraiment la bon tiers du bouquin, c'est un flashback. Et c'est pas plus mal, parce que justement, le bouquin, c'est bien plus barbare que le film. Ah ouais, mais là, au niveau violence, on a des jambes attaquées à la perceuse, des démembrements, de la torture au chalumeau, des yeux arrachés au barbelé.
On va se faire incendier par le CSA.
Bah quoi, ce truc qui arrive, hein, je suis désolé. Et moi, ça m'a fait penser au film de Sergio Leone, il était toutefois en Amérique, en beaucoup plus violent. C'est-à-dire que c'est des personnages qui se voient plus tard et qui se remémorent leur 400 coups, ils avaient des démêlés avec les mafieux. Et donc voilà, bon, il s'agit d'History of Violence, c'est chez Delcourt. Mm-hmm. Scénario John Wagner, dessin de Vince Locke, et voilà, un dessin noir et blanc... qui m'a bien plu en tout cas.
On fait une coupure musicale avant d'entamer le cinéma.
Allez
hop. Je crois que celle-ci, oui, vas-y, pardon. Oui, je crois que celle-ci, tu as dédicace à ma petite sœur, c'est ça ?
À ta petite sœur, pourquoi ?
Excusez-moi, on était j'étais en train d'expliquer à Thomas que c'est pas comme ça qu'il fallait parler à ma sœur.
Bon,
Tekiro Puta, franchement. Ouais. Mais...
Ça y est, de Rammstein.
Non, mais attends, franchement,
peut-être
tu.
Qu'elle aime ça. Hein.
Enfin bon. Camille, tu connais le numéro de la station 0561 580 580.
Il s'agissait de Rammstein sur leur dernier album Rosenrot.
Ouais, bon, on peut... Hein ? Allez, hop, c'est quoi le sujet déjà ? Hein ? Lady Violence ?
Lady Vengeance.
Lady Vengeance, ouais.
Attends, bon. Attends que je remette de l'ordre dans mes notes.
Donc je rappelle qu'il faut mettre le macaron moins 12 en bas à droite de votre poste
oui.
de radio. Merci.
Voilà, donc si on parlait de Lady Vengeance, le dernier volet de la trilogie sur la vengeance de Park Chan-wook, il avait commencé ça avec Sympathy for Mr. Vengeance en 2003. Il avait poursuivi avec l'événement de la croisette en 2004, c'était Old Boy. Il avait failli obtenir la Palme d'Or, c'était décidé avec le film de Michael Moore. Et donc, voici le dernier opus qui a été présenté à Venise. Et
c'est donc, il est super attendu, il est super génial.
Moi, j'avais adoré Old Boy, franchement. Sympathy for Mr. Vengeance, je ne l'avais pas vu. Et là, je l'attendais effectivement avec impatience. Et puis, pour rien te cacher, j'étais super déçu. Voilà. C'est là, cette fois, donc le casting, c'est avec Lee Young Hae, que je ne connais absolument pas. C'est l'héroïne principale. Et avec toujours l'immense Chun Mystic, qui était le personnage principal de Old Boy. Alors, le pitch. Emprisonnée pendant 13 ans pour un meurtre qu'elle n'a pas commis, c'était un meurtre sur un petit gamin. Gumja, l'héroïne n'a qu'une idée en tête, se venger du vrai meurtrier. Mais elle va donc mettre au point un plan machiavélique pour se venger. Sauf que la machine va s'enrayer un petit peu, en fait. Haha. Et donc, contrairement à Old Boy qui était super pur, qui était quasiment le film parfait à mon sens, c'était vraiment, il n'y avait pas une scène à changer, les effets, s'il y avait les effets de caméra, les effets de mise en scène, tout était parfait. Alors que là, on a vraiment l'impression que la structure un peu tarabiscotée à la Tarantino, avec des morceaux de narration qui chronologiquement après, qui viennent avant, etc. Ça, on dirait qu'il s'est un peu fait chier la vie pour rien en fait, puisque c'était pour masquer un peu le sentiment de vide qu'il y a au début du film. C'est vrai que pendant les deux tiers du film, tu te fais vraiment chier. Hein. T'as du mal à t'identifier à l'héroïne, elle est super froide. En plus, justement, la narration, ça aide pas vraiment à se plonger dans l'histoire. Alors que Old Boy, c'était le mec, il était super passionné, c'était un chien fou qui sortait de la prison, t'avais trop de peine pour lui. Il dit ah putain, pète-lui la gueule, c'est qui t'a fait ça. En fait, là, ouais, bon, c'est une fille qui sort, voilà. Et ça raconte un peu ses mésaventures en prison, elle rencontre des filles complètement ch'tarbes qui se font lécher dans les saunas et tout. Pardon, s'il y a bien... Ouais, il y a le macaron. Hein. Voilà, par contre, il y a un truc qui est bien dans le film, c'est que j'en parlais tout à l'heure, il y a son plan qui va un peu tomber à l'eau à un moment donné, parce qu'au deux tiers du film, il se passe un truc. Et un truc donc, auquel elle n'avait pas pensé. Et qui fait prendre au film une nouvelle tournure, et c'est vraiment pas plus mal. Et là, ça t'arrache de ton sommeil comateux, et ça décolle. Et le dernier tiers du film, là, il est pas mal réussi. Franchement, je vais pas dire ce que c'est, même si je l'ai lu dans un magazine, et là, ils ont spoilé, mais moi, je vais pas le faire ici. Et du courage. Par contre, c'est vrai que la fin, enfin, pas la toute fin, le dernier tiers, c'est vraiment extrêmement sauvage. On va dire qu'il y a un personnage qui paye pour l'ensemble de ses crimes, et puis les mecs ils vont pas par le dos de la cuillère, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est vrai qu'il faut vraiment se protéger avec des sangles plastiques. Voilà, non, pas les spectateurs, les héros, les personnages du film, hein. N'aie pas peur. Voilà, donc c'était Lady Vengeance, vous l'aurez compris. Bon, moi je vais pas m'éterniser dessus. C'est le dernier volet de la trilogie sur la vengeance de Park Chan-wook.
Ouais.
On va espérer qu'il se tourne vers autre chose maintenant. Même s'il avait réalisé le segment de 3 extrêmes, c'était le segment avec la fille qui se fait torturer au piano, qui perd l'usage de tous ses doigts. On va voir ce qu'il est capable de faire maintenant. Voilà, il s'agit de Lady Vengeance, youhou! Enjoy!
Joie de vivre, oui, je vois ça. Du spot. Pardon, excuse-moi. Non, j'avais. Non,
ah
non.
Oui, tu corriges maintenant.
Non, excuse-moi,
vas-y,
je t'avais pas.
Y aller.
Non, tu peux y aller, oui. Oui, on t'a pas entendu.
Ah, excuse-moi, je commentais juste les.
Ouais, mais j'avais un problème de. Enfin bon.
Non, mais excusez-le, il débute. Ah, Xavier.
Oui, j'avoue, je reconnais. Je reconnais qu'on va malheureusement dépasser midi 56 minutes et 24 secondes en supplément week-end sur Radio FMR. Et c'est du sport pour la télévision.
Et ça me fait penser, j'ai pas le droit à mon jingle de cinéma, moi.
t'es lourd. Hein.
Mais non, mais c'est bon, c'est fini là.
Oh, bon, d'accord.
Bon, okay. Tu refais le commentaire avec
attends,
le jingle.
Ouais, alors on va faire le jingle cinéma, ce sera pour du sport pour la télé, d'accord ?
Tu y tiens. Enfin, oui, bon, d'accord, ok. Ben,
allez.
Attends, j'essaie de le retrouver.
Voilà.
Ah ouais, non, mais aujourd'hui là, ça va pas du tout.
Bon, sinon, du sport, tu nous as apporté une BD que je te taxe. Donc, c'était Superman Redson.
C'est du sport.
Quoi, c'est tout ?
Bah, c'était amusant, non ?
Bon, d'accord.
Bon, d'accord,
c'est
ok.
C'est pas ce jingle-là que je pensais.
Oui, oui, non, parce que l'autre a été supprimé. Oui, ça arrive. Bon, bah, du sport, bah, vas-y.
Bon, bah, tu peux pas monter un peu là le casque, moi j'ai du mal à m'entendre là, hein, franchement, quoi. Y a un truc, ouais, ouais, d'accord, c'est déjà mieux là. Là, bon,
voilà.
Là, ça commence à devenir bien là. Là, c'est pas mal. Alors, t'as vu le bouquin que t'as en main là,
ouais.
Thomas ?
Ouais, ouais.
Hein, c'est Poulidor par Raymond Poulidor.
Le
livre est sorti l'année dernière aux éditions Jacob Duvernay. Et à l'occasion de la venue dans nos murs, presque dans nos murs toulousains, enfin Saint-Eurens-de-Gameville, c'est à côté, hein, tu vas me dire, eh bien il est là en ce moment, il est présent hein, toute la journée dans le centre commercial de Saint-Eurens. Il y en a qu'un de toute façon, alors bon c'est facile, comme ça t'as pas besoin de le citer. Hein. Oh, on l'a donné hier hein, le nom, hein, plusieurs fois quoi, je veux te dire, hein, sur Radio FMR. Il est là, il fait signer ce bouquin donc qui est sorti l'année dernière parce que l'année dernière en fait c'était à l'occasion du 40e anniversaire du duel, le fameux duel Anquetil-Poulidor en 64. Tu te rappelles ?
Non.
Bon, ça me donne pas.
Ouais, surtout n'écoutez pas du sport, il dit que des méchancetés.
Et c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout. Donc à l'occasion bah, il a sorti ce bouquin. Faut dire que Poupou est un personnage un petit peu singulier hein, dans le cyclisme on va dire hein, parce que bon bah, il a une carrière exemplaire. À un moment il était en concurrence avec le président de l'époque, c'était Pompidou hein, il y a carrément la photo où il y avait Pompidou à droite, Poupou à gauche, enfin bon peu importe la place, mais enfin voilà hein, pour dire hein, qu'ils étaient tous les deux égaux hein, pratiquement. Il était aussi célèbre, ça a été le cycliste avec Anquetil le plus célèbre, le préféré de toute façon, le chouchou des Français. Il a une réputation complètement usurpée de toujours seconde. Enfin bon, tu ouvres le bouquin à la fin, il y a son palmarès, tu tombes sur le cul quoi, parce que bon, des premiers il y en a pas mal quoi, quand même. Il a gagné une tapée de courses, donc il a dû gagner pas mal de sous aussi de toute façon. Et ce qui est pas mal, c'est que à la fin de sa carrière hein, il n'a pas fait comme les autres qui se reconvertissent plus ou moins, qu'on retrouve toujours plus ou moins sur le devant de la scène du cyclisme en tant que promoteur on va dire, hein, du cyclisme ou alors en tant que intervenant régulier voire partie prenante hein, c'est-à-dire entraîneur, directeur d'équipe, commentateur, c'est le cas de Virenc là qui commence une bonne carrière. Moi, s'il continue comme ça, le mec, il peut aller loin à la télé. Il y a pas de problème parce qu'il est vraiment, vraiment pas mal. Et il y en a d'autres qui foutent plus rien. C'est-à-dire, ils se disent, ok, j'ai gagné assez de thunes et tout, je me retire chez moi. C'est le cas de deux champions français très connus.
Fignon,
il bosse encore un petit peu dans le cyclisme. Mais par contre, Hino, lui, s'est complètement retiré. Hein, on le voit juste sur le tour pour faire un petit peu de promo. Poupou, on le voit jamais pratiquement. Si, il va quand même sur le tour un petit peu, mais parce qu'il a un patronage avec une autre marque que je ne citerai pas. Et à l'occasion donc de ce fameux duel, 40 ans après, avec un journaliste bien entendu bien connu, Jean-Paul Brouchon, eh bien il a sorti ce bouquin hein, qui retrace un petit peu l'ensemble de sa carrière. C'est vraiment très très intéressant comme bouquin, hein, si vous voulez savoir un petit peu comment ça marchait le cyclisme avant le cyclisme moderne, hein, puisqu'il a eu sa carrière qui est partie dans les années 50. Et sa dernière course, c'était en décembre 77. Hein, donc, bon, grosse carrière. Il a connu pas mal le monde. Il a connu pas mal de monde. Hein, et moi, je peux te dire, moi, je l'ai jamais vu en vrai et tout. Enfin, je cherchais plutôt le mec en jaune qui s'appelait Merckx à l'époque. Donc, Poupou, je crois qu'il tournait. Il était déjà arrêté donc à l'occasion de ce tour. Enfin, ça remonte à très très loin. Voilà, donc, le livre, bon, bah, il est en vente, c'est anecdotique. Par contre, il est présent toute la journée jusqu'à 19h dans ce centre commercial pour faire dédicacer ce livre Poulidor par Raymond Poulidor. Et si vous êtes sage, eh ben un peu plus tard dans l'émission, ben je vous ferai gagner un ou deux livres de Raymond Poulidor, Poulidor par Raymond Poulidor, non dédicacé malheureusement. Enfin bon, c'est comme ça. Deuxième livre. Alors là, si j'ai un petit peu délaissé la télé cette semaine et les bouquins d'ailleurs TBD, bon tu les auras la semaine prochaine parce que quand j'ai reçu ce livre. Je me suis dit, au départ, j'étais pas très chaud. Je me suis dit, bon, d'ailleurs, il y a ma femme, oh, elle est tombée, c'est pas la peine. Elle me l'a quand même pris et tout. Puis j'ai commencé à le bouquiner, j'ai commencé à lire. Et au fur et à mesure, j'ai pas terminé encore, quoi. Enfin bon, c'est pas grave, parce que dès le début, pratiquement, tu sais qui a tué le Dahlia Noir. Le Dahlia Noir, l'un des plus célèbres crimes non résolus du XXe siècle, car ça remonte à 1947, janvier 47, le 15 janvier 47, exactement. Et il a fallu attendre pratiquement plus de 50 ans, hein, donc presque 60 ans, entre 50 et 60 ans, pour savoir qui est le vrai coupable. James Ellroy avait sorti un bouquin, le Black Dahlia, qui était l'histoire romancée, puisque on ne sait toujours pas qu'il ne savait pas à l'époque qu'il avait tué. Il s'était renseigné, il avait fait son truc, il avait trouvé une fin assez honorable, on va dire, mais qui n'est pas du tout vrai en fait, hein, quand on sait quelle est la véritable identité. Et en fait, c'est à la base, c'est un bouquin qui s'appelle L'affaire du Dahlia Noir, complément d'enquête des révélations inédites, par Steve O'Dell. Steve O'Dell, en fait, c'est lui le déclencheur. C'est un ancien flic du LAPD qui a commencé dans les années 60. Il a gravi tous les échelons, et c'est-à-dire il a commencé dans les bagnoles en flic en bleu en patrouille, et il a terminé patron du LAPD, patron de la cellule Robbery and Homicide, c'est-à-dire le fleuron, hein, les super flics qui ont enquêté sur une tapée de meurtre telle que le meurtre de Bobby Kennedy, Sharon Tate, tout ça, enfin bon, et j'en passe durant des décades et des décades. Et qui a pris sa retraite donc au début des années 90, et qui, à l'occasion de la mort de son père, qui est survenu au début des années 2000, a eu l'occasion donc de feuilleter un petit peu les archives inédites de son père, hein, les albums photos et les petites choses comme ça. Il est tombé sur des photos un peu troublantes. Et c'est à partir de ces photos un peu troublantes, et à partir de ce, on va dire, de cet exercice de style qu'était le Dahlia Noir pour l'ensemble des flics américains, plus particulièrement pour les flics de l'LAPD, puisque c'était un crime non résolu, que donc c'était même un cas d'école qui était enseigné à la Police Academy comme crime non résolu, eh bien il a décidé de reprendre l'enquête en tant qu'enquêteur qu'il était, de son vivant. Et durant sa carrière, il a résolu plus de 300 assassinats, ce qui est pas mal quand même pour un keuf. Il a toujours été l'un des meilleurs de sa promotion et toujours arrivé en premier. Il a été gradé un petit peu toujours avant les autres. Enfin bon, il a été un petit peu précoce, on va dire. Son père également était un super génie, qui avait un QI supérieur à Einstein, qui a appris la médecine après avoir été chauffeur de taxi. Il jouait du piano à l'âge de 9 ans en tant que prodige. Enfin bon, c'est assez monstrueux. C'était un familier de Man Ray, le célèbre surréaliste, puisqu'ils habitaient à Los Angeles. Il connaissait vraiment beaucoup de monde de Hollywood, des actrices, bien entendu. Sa mère, Steve O'Dell, eh bien, avant de rencontrer son père, elle était maquée avec un certain John Huston. Il connaissait très bien Walter, le père de John Huston, bien entendu, qui venait souvent à la maison. Hein. C'est vraiment très, très passionnant. Hein. C'est toute une. Il nous raconte d'abord son histoire, il nous raconte sa jeunesse. Et bon, c'est vraiment très très pittoresque, et on en arrive bien entendu à la conclusion, hein, qui a tué le Dahlia Noir, cette femme qu'on a retrouvée quand même. Ça a été un crime vraiment atroce, hein, le cadavre coupé en deux, les deux parties du corps décalées l'une par rapport à l'autre, les mains relevées en arrière, hystérectomie, là c'est du moins 16 qu'il faut mettre, hystérectomie pratiquée, enfin bon, la totale quoi, hein, plus lacération, l'homme qui rit, le fameux coup de scalpel de chaque côté de la bouche, enfin bon, je vous en passe des meilleurs. Tout ça donc très très bien résumé, hein, par Steve O'Dell dans ce bouquin qui est excellent, hein, qui s'appelle L'affaire du Dahlia Noir. Paru chez Point.
Et, tu...
et je te le file pas parce que j'ai pas terminé.
Et il me semble qu'il y a une adaptation cinéma qui est en préparation, enfin qui est en tournage. Hein.
Tu m'étonnes.
Mais je crois qu'il y en a eu plusieurs.
Attention.
Hein. Et tu sais qui c'est qui s'en occupe en ce moment?
Non, non.
Ah, c'est Brian De Palma.
Ah bah ouais, bah attends.
Ah ouais.
Ouais, ouais, bah attends, parce que là ça va être très très chaud là. Attention, quoi. Là ça peut être du moins 16 sans problème.
Ouais.
Hein.
Parce que...
allez, les bouquins c'est bon, revue de presse, on la ferait la semaine prochaine. Non, non, vite fait, hein, c'est des numéros 1. C'est un nouveau venu de la cuvée Mad Movies. Et c'est spécial Asia. C'est Mad Asia qui va paraître tous les deux mois, c'est-à-dire c'est un bimestriel. Ok. Avant, dans les Mad Movies, chaque mois, vous aviez droit aux Nautules Asiatiques et tout ça, c'est-à-dire 2-3 pages, plus de temps en temps quand il y avait de l'actualité, bien entendu, hein, de l'actualité sur le ciné, sur les ciné asiatiques, mais là, c'est vraiment 100% asiatique. Et en même temps, le mois.
Le ton d'abonnement, là.
En même temps, le même mois, sort un autre numéro 1 consacré également au cinéma asiatique, Japon, Chine, Hong Kong, Singapour, qui s'appelle Eiga Na, merde, j'avais lu en entier, mais enfin je me rappelle pas.
Eiga, ça veut dire film en japonais.
Ouais, mais attends, parce qu'il y a le truc en entier là. Eiga no Mura.
Eiga no Mura.
Eiga no Mura. Voilà, tac. Qui est nettement plus chiant à lire. Autant dans le Mad Asia, c'est exactement la même jaquette, la même présentation que dans le Mad Movie classique. Donc on s'y retrouve. Autant là, ça ressemble plus à ce qui se fait de moderne, hein, c'est-à-dire que j'aime pas trop, c'est un peu difficile à lire, c'est un peu chiant. On n'est pas trop dedans. Il y a quand même des articles qui ont l'air intéressants. Une histoire qui commence du cinéma japonais. La chronique de tous les films de Godzilla qui sont sortis.
Bon, ça fait du magazine, j'espère.
Ouais, bah attends.
Non, mais attends, il en sort un pas tous les 9
attends,
mois.
Attends. T'as 5 phrases pour chaque film. Bon, c'est vite fait, hein, je veux dire, ça prend pas trop de place. Hein. C'est bon, hein, tout ça dans Eiga et Manouvi qui sort également. Ouais, tiens. Et Manouvi qui sort également hors série. Créatures et créateurs, les spéciales monstres, c'est-à-dire c'est surtout pour les gens qui sont intéressés par les maquillages, les effets spéciaux et les genres de trucs comme ça. Hein, et là,
c'est sorti un peu tard pour Halloween. Hein.
Ouais. Non. C'est presque bon là, avec un casting de tronche absolument magnifique. Mais ça, c'est pour les plus grands quand même. Hein, voilà, on va le dire. Hein. De la télé à présent, ça te plaît?
Ah oui.
Hein, t'es d'accord? Alors, ça commence avec les screenings. Putain, j'ai carrément balancé tout le truc. les screenings de Série Club chaque année a lieu sur ce qui est Série Club. Deux soirées où ils nous diffusent des séries complètement inédites en France et même ailleurs d'ailleurs, parce que bon bah souvent c'est des séries qui ont pas trop marché, des fonds de tiroir, des espèces de trucs qu'ils ont pris avec des lots comme ça quoi, ils se sont dit bon ok, faut quand même qu'on le balance quoi, ce truc quoi. Et c'est l'occasion également pour que les téléspectateurs et téléspectatrices aient l'impression que l'interactivité, ça fonctionne à fond les manettes sur la télé parce que c'est génial. Alors c'est des vraies conneries quand même, quoi. C'est quand même eux qui décident et nous, on est là bah, juste pour faire marcher un petit peu plus la machine à SMS et à 36, je sais pas quoi, là, non, au 82, je sais pas quoi, les numéros là, surtaxés et tout ça, quoi.
Ah non, voter. Non, s'il te plaît.
Bon, ça c'est les screenings, en fait, c'est ce soir, pardon. Et demain soir sur Série Club, cette série complètement inédite. Ce qu'il y a de bien, relativement intéressant quand même, c'est la diversité au niveau de la provenance des séries, parce que bon ben on a eu des screenings où c'était pratiquement américano-américain les différentes séries, ouais. Donc ça commence à être un peu chiant. Bon ok, t'avais tous les styles qui étaient un petit peu déclinés, mais par des Américains. Là ben on va voyager un petit peu. Alors je vais commencer par ce soir ça commence à 20h50 par un téléfilm d'une série allemande qui s'appelle Verschollen. Verschollen, ça veut pas dire Lost, mais enfin bon la série c'est du Lost en Allemagne. Alors, à propos de Verschollen, ils nous disent tout simplement, 20 personnes rescapées d'un crash cohabitent sur une île déserte du Pacifique.
Ah ouais, quand même.
Non, mais c'est Lost. Ah ouais. Hein. Série d'automne, elle sombre dans le ridicule tant le plagiat éhonté de Lost. Dans ce décor de carton-pâte frise le procès à chaque scène. Ils sont perdus qu'il le reste. Ok, avec.
C'est qui l'a produit, franchement, pour déconner.
Ça date de l'année dernière. Hein. Il y a 30 épisodes de 50 minutes avec Berit Arnold et Hendrik Borgman. C'est
ce
soir.
Ah bon, c'est fait aux États-Unis en plus.
Non. Allemagne.
Allemagne, pardon.
Allemagne. À 22h30, là, ça risque d'être plus intéressant. Il s'agit de Manchild. Manchild, c'est une série de Grande-Bretagne, anglaise. Donc, c'est un petit peu une série qui a voulu faire du Sex and the City à l'envers, quoi. Mais avec l'humour anglais en plus, avec des personnages, enfin, deux acteurs qu'on connaît bien. Enfin, assez bien hein, pour les gens qui pratiquent un petit peu la télé britannique.
Bon, j'ai
Nigel
cru qu'ils pratiquaient autre chose.
J'ai arrêté quand j'étais jeune.
C'est Nigel Avers, qui est un comique assez connu là-bas. Et surtout, Anthony Head, voyons, Giles. Rappelle-toi, Giles.
Ah oui, il est génial, lui.
Giles, Anthony Head. Ah ouais. Donc,
convaincu de Thomas, là.
Manchild, hein, c'est un petit peu Friends, Sex and the City. Donc ça, c'est ce soir à 22h30, 23h05. C'est là que ça peut être la bonne surprise. C'est con, c'est là où il y a le moins de, parce que là, Manchild, on en a fait 16 épisodes en tout. Là, la série qui suit ce soir à 23h05, c'est Push Nevada. Écrite par Matt Damon et Ben Affleck.
Ah oui, j'en ai entendu parler.
Et ça a pas du tout marché. Alors, oui, je sais. Ouais, 8 épisodes seulement. Allez, à dégager quoi.
Au revoir.
Avec Derek Cecil et Scarlett Chorvat, hein, c'est une histoire d'agent du fisc qui tombe sur une escroquerie assez gratinée. Donc, excusez-moi. C'est un petit peu Twin Peaks, ça part un petit peu dans les trucs pas possibles. Et on sait que Matt Damon a de réels talents d'écriture, donc ça vaut le coup. J'avais déjà vu des previews, hein, des petits trucs sur cette série, ça a l'air d'être pas mal. Donc c'est ce soir à 23h05. Et on termine la soirée des streamings ce soir à 23h55 par City Life, une série néo-zélandaise, 26 épisodes de 50 minutes avec une nana qu'on connaît, c'est Claudia Black. Claudia Black parce que c'est la nana qui est dans Pitch Black, ouais, tu sais, la brune là, bien carton et tout quoi. Et qu'on voit après dans une autre série dont je me souviens toujours pas le nom, une série néo-zélandaise, tu sais, là, qui se passe dans l'espace, là, avec le mec, il n'y a qu'un seul humain et tout le reste, c'est des créatures. Là.
Ah, bah, par Hanson.
Hein?
Avec
par Hanson, ouais.
Mince.
Bon, j'arrive pas. Depuis ce matin, j'arrive pas. Enfin, Claudia Black, quand même, hein, elle est bonne.
Bah, je vous rassure, c'est pas le nain rouge. Hein,
Ce soir. Donc, demain soir, les screenings commencent par un téléfilm. Donc, c'est L'Insurgé. C'est nouveau du britannique. Et là, c'est Tamsin Outwaite qui joue le rôle principal. Tamsin Outwaite qu'on a vu, qui est une échappée de EastEnders, me semble-t-il. Ouais, EastEnders. Et qui est vraiment pas dégueulasse comme actrice, hein, vraiment, hein, j'ai déjà vu dans un autre téléfilm, là, elle joue le rôle d'une enquêtrice militaire. Alors déjà, c'est une nana, en plus, elle est dans l'armée, et en plus, tu vois le genre, quoi, hein, donc il faut y aller, quoi.
Ça passe sur BBC ou alors
ça s'appelle Red Cap en version originale, et c'est vraiment pas mal, donc à voir, à découvrir, il y a 12 épisodes, hein, la saison qui fait épisode de 60 minutes. Ça, c'est demain soir à partir de 20h50.
En général, d'ailleurs, on peut croire que c'est une œuvre de propagande pour l'armée anglaise, etc. Et en fait, pas du tout. C'est assez étonnant. Hein.
Non, attends, c'est
assez critique des fois, et les moyens qui sont déployés sont assez énormes. C'est surprenant.
Alors, demain soir, après, je dirais que demain soir, c'est qualitativement, ça a l'air mieux quoi que ce soir. Après les insurgés, il y a The Jury. Une série qui a été inspirée par Barry Levinson, Tom Fontana. Et quand je dis ça, ça veut dire Oz. Donc on se dit, waouh, ça va dépoter à fond les manettes, ça va être un truc qui tue. Et The Jury, en fait, n'est ni plus ni moins que la série dérivée du film du même nom, The Jury, hein, 12 hommes en colère, en français, ok, hein, qui avait été retravaillé pour la télé. On avait fait déjà un remake au cinéma. Et là, eh ben, c'est proposé donc par le tandem Levinson Tom Fontana, en décliné en série. Ça s'appelle Le Jury, hein, donc. Et malheureusement, ça a pas marché. C'est le premier flop, hein, que connaissent Fontana et Levinson. Eux, qui, chaque fois, ils ont fait une série. Après Homicide, ils ont fait Oz. Ça a pété du feu du diable, enfin terrible, quoi, terrible. Et là, avec Le Jury, ben, ça a pas marché. Le public américain n'a pas du tout gobé. Et donc, il n'y a eu que 10 épisodes de 42 minutes avec Billy Burke, avec Adam Bush. Enfin, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est de toute façon d'excellente qualité. Et on termine avec une série de vampires. Vampire High, qui est une série canadienne. Avec que des nanas que vous connaissez pas, donc c'est pas la peine. Hein. Alors, c'est un mélange de Buffy et de Dawson, si tu vois le genre.
Ouais. Oh non,
donc, ça le fait grave, quoi, tu vois. Surtout si t'as un certain âge, quoi. Alors, c'est demain soir à partir de 23h20, donc dans le cadre des screenings sur Série Club. Et c'est présenté par la magnifique et ravissante Elsa Fayet.
Du sport, tu es responsable quand même de ce que tu dis, parce que je te rappelle que j'enregistre ces émissions, qu'elles sont mises en ligne et qu'elles restent perpétuellement sur le site web, donc on les ressortira à tes gamins.
Ouais, mais vas-y, continue à parler là, que je tourne les pages. Ouais. Une nouvelle chaîne, il y en a plusieurs des nouvelles chaînes à arriver cette semaine. Il y a deux nouvelles déclinaisons de MTV, MTV Idol et MTV je sais pas quoi.
Pop,
ouais, me semble. Ouais. Bref, laisse
mais
tomber.
C'est une catastrophe parce que tous les programmes sont doublés en français.
Ah ouais, mais ça, bon, c'est MTV, qu'est-ce que tu veux quoi. Hein.
Ah non, c'est MTV France.
Faut choisir de quel côté on est. Hein.
C'est dégoûtant quand même.
Boycotter MTV. C'était un message subliminal.
On boycotte déjà Sony, ça va.
Alors, la nouvelle chaîne qui, par contre, est intéressante, c'est Sci-Fi. J'en avais parlé au début de la saison. Sci-Fi, la nouvelle chaîne de science-fiction qui vient des États-Unis. Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que ce sera disponible uniquement sur CanalSat. Les bollocks, quoi. Les grosses bollocks. Et par contre, ça promet d'être bien chaud au niveau de la programmation. Hein, c'est la part belle à la science-fiction. Et ça commence, ça dépote dès vendredi prochain. Donc, début des programmes à 20h45 avec Chub Chubs, que je sais pas ce que c'est. Donc, ça a l'air rigolo. Hein, parce que Meeper est balayeur de bar sur la planète Glorf. Il voit son rêve de chanteur s'effondrer lorsqu'une horde de Chub Chub débarque. Ok, à 20h50, ça dure 5 minutes, hein, c'est l'animation. ça dure 5 minutes. Ensuite, on a Battlestar Galactica, la série,
la nouvelle.
Les poules, putain, on le verra, mais ouais, tant pis quoi. Avec Edward James Olmos, Jamie Bamber, on avait vu le téléfilm, c'est pas mal, c'est bien sombre, bien glauque et tout. Ouais, alors il faudrait que la série continue. C'est un petit peu sur ce même trip quoi. À 22h35, Trekkies, un documentaire de Nygaard avec Dennis Crosby, avec Adami, avec Denis Bourguignon. Sur qui? Eh ben sur les fans, sur les Trekkies. Space.
Space.
The final frontier. Écoutez bien ce générique car vendredi prochain. Vendredi prochain, après ce documentaire sur les Trekkies à 22h35, à minuit 5 sur Sci-Fi, on nous propose ni plus ni moins que Star Trek en version originale, l'épisode pilote, le premier épisode de Star Trek, la série originale, donc vendredi prochain à minuit 5 sur cette chaîne qui s'appelle Sci-Fi.
Je peux te dire que là, il y a Nicolas qui vient nous foutre un air de consternation sur Chub Chub. On dira pas.
Allez. Alors maintenant, pour rigoler un petit peu pour la bonne bouche, quoi. Je vais faire un truc sur Jeff Cobert, quoi. Mais enfin, je sais pas si je vais avoir le temps, quoi, parce que c'est un petit peu. Ouais, on le fera la semaine prochaine, Jeff Cobert. C'est un petit peu comme James Sandy, les mecs qu'on connaît les noms, mais on sait pas qui c'est, la tronche et tout.
Tu sais, en général,
tu connais la tronche, tu vois le mec. Ah ouais, putain, j'ai déjà vu ce mec et tout. Et puis, tu sais jamais quel nom il a.
Comment il s'appelle, première qui s'appelait, on sait jamais comment il s'appelle.
C'est vrai, ouais, un petit peu le même genre. Mais là, c'est plus sur la télé, quoi. Allez, je vais te le faire, Jeff Cobert, quoi. T'es d'accord,
hein? Ouais.
Allez, Jeff Cobert.
Le premier qui trouve qui c'est.
Alors il a une tronche quand même qui est autant James Sandy a une tronche, je veux dire, bon, maintenant un cheveu blanc et tout, on peut dire il peut jouer les papas Noël, il peut jouer les bons papas comme les gros enculés de base, pas de problème, il s'y prête. Et Jeff Cobert lui est plutôt on va dire allez, tu veux un rôle de vampire, viens tu vois, genre le tronche qu'il a et tout, déjà bon, ok, bah c'est comme ça. Il est né en 53 dans le Montana, moving into Montana. on arrête. Et bien entendu, il a commencé sa carrière d'acteur au début des années 80. Bon, bah, ok, hein, vu la tronche, je peux dire ça. Il a pas toujours fait les premiers rôles, jamais d'ailleurs. Hein, c'est un petit peu dommage. Et il a commencé dans différentes séries B, telles que Alien Nation, quand même pas mal. Hein, Alien Nation en 88, Viper en 88, The First Power en 92, Angel Fire en 92, The Baby Doll Murders en 93. Tank Girl en 95. Ah, ça, t'as vu ça, hein, quand même.
Non, je connais.
Ouais. Ah, t'as pas vu Tank Girl?
Non,
ouais, c'est rigolo. C'est vraiment
ni même
rigolo.
Le comics
Non.
Ah,
oh,
si, vraiment, c'est avec Ice-T et tout. Ouais. Et comment il s'appelle?
Enfin,
Gary Oldman et tout. Ah, ouais. Très bon,
Ice-T,
très bon.
connaître.
Iggy Pop aussi, je crois. Demolition Eye en 96. Et après, il est parti en Allemagne. Il joue en Allemagne en 2003. Men Apart aux Philippines en 2004 avec Hidalgo. Mais par contre, il tue la mort parce que c'est un mec qu'on a vu dans pratiquement toutes les séries qu'on connaît ici en France. J'ai mis les séries qui sont sorties en France parce que les séries qui sont pas sorties, c'est pas la peine. Il a commencé dans Falcon Crest en 81. Faire, alors chaque fois apparition, bien entendu, hein, c'est-à-dire guest invité. Twilight Zone, c'est-à-dire la quatrième dimension en 85. China Beach, l'excellente série médicale sur les nanas. Et le Vietnam en 88, hein, qui est écrite par les mecs qui ont après continué dans le domaine du médical, vu qu'ils ont écrit Urgence. MacGyver en 87, V en 85, et il est pratiquement de la première mouture, ouais, c'est l'épisode numéro 7 ou 8 de la première saison de X-Files, et ça c'est normal, hein, de toute façon. Ensuite, il a fait carrément un épisode double en 97, en 94, Texas Rangers, Walker, Texas Rangers. Il a fait The Lazarus Man, alors ça, vous connaissez pas, mais ça a été une fois un petit peu diffusé comme ça sur Canal Jimmy, il y a des années, hein, le western, un western plus crépusculaire avec... Et comment elle s'appelle, l'homme qui valait 3 milliards
Lee Major
dans le rôle du Lazarus. Mais c'est pas mal, un western sympa, une série, petite mini-série comme ça, sympa. Dans Buffy, bien entendu, en 99, dans Poltergeist en 99 également, et dans Charmed en 99 aussi. Allons, on y va. En 2000, il se paye Jag. Ensuite, en 2001, il fait le haut de gamme. Là, il arrive dans le haut de gamme. En 2001, il fait Star Trek Voyager et NYPD Blue.
Ah bon, il fait, j'ai peur, il fait, de gamme, c'est un
il fait une autre série Star Trek qui fait Enterprise en 2002 ainsi que Crossing Jordan, hein, c'est-à-dire Preuve à l'appui en français. Mmh. Ok, le truc qui passe le dimanche, hein, dont je parle vachement souvent, quoi, parce que c'est une bonne série. Et il fait encore, il refait Buffy deux épisodes en 2002, il fait ER Urgence en 2002, il fait CSI, c'est-à-dire
les experts
en 2003, il fait The Shield également en 2003. Il fait une série qu'on n'a pas encore eue ici aux États, en France, pardon, mais qui est sortie aux États-Unis. Mais je pense que vu la qualité, on devrait avoir ces 10-8 Officers on Duty, une série policière. Il y a également The Guardian en 2003. Il a fait Law and Order Special Unit, c'est-à-dire la série avec Chris Meloni et Marika Argitay et Ice-T, là, le Law and Order sur les crimes sexuels en 2004. Et il retourne dans NYPD à l'occasion de la 12e saison. 12e saison qu'on est en train de voir sur Canal Jimmy. Donc là, je peux vous dire qu'on l'a pas encore vu. Si, putain, c'était lundi dernier, putain, en plus. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire ce truc sur Joe Cooper. Vous l'avez loupé, donc c'était dans le deuxième épisode NYPD, 12e saison inédite, qui passe en ce moment tous les lundis sur Canal Jimmy. Et comme on est en train de déborder à fond les mallettes, je vous ai préparé un petit... des petits films à se mater durant toute la semaine, et c'est des petits films genre des couilles, tu vois quoi, les mecs, ouais. Les mecs qui ont des couilles, sévèrement burnés, ça commence là tout de suite après, là 14h10, dans moins d'une heure, sur TF1, ouais, un petit Dustin Olsen de 2001 qui s'appelle Au cœur de la fournaise, bien entendu c'est une histoire d'incendie, facile, une experte en incendie qui essaye de tout faire pour éteindre l'incendie et en plus pour prouver l'innocence de sa fille qu'on a accuse d'avoir foutu le feu. Avec Jeff Fahey, c'est pour ça que c'est bon. Janet Gunn et Dean Stockwell, qui lui, bon bah ok, ah oui, recyclage. Oui. Demain soir sur TF6 à 20h50, un gros classique, le Ninja Blanc de Sam Firstenberg en 87 avec Michael Dudikoff.
Ah si.
Et Steve James. Et dans la même série, lundi sur TF6 à 20h50, encore un gros classique, Justice Maximum de Greg Yatanas. En 95.
C'est pas encore cette semaine que avec je vais mettre
David
à la télé, moi.
Avec David Bradley, Charles Napier et Yuji Okumoto. Mardi, alors là, bon, ben, c'est quand même un classique du cinéma d'action de seconde zone. Sur RTL9 à 20h45, L'Aigle de Fer, l'original, le vrai, le seul de Sidney Fury en 86 avec Tim Thomerson, Jason Yedrick, tout petit, tout jeune, il était mignon. Il y a également Lou Gossett. Il y a également Lou Gossett Jr. et David Suchet, méga. Ouais, David Suchet en 86. Mercredi, c'est M6 qui s'y met avec un téléfilm là, qui dure jusqu'à minuit, quoi, carrément. Mais c'est de l'inédit, ça date de 2004. C'est tourné par Armando Mastroianni, qui n'a pas de lien de parenté avec l'autre. Ok. Et par contre, le casting, il tue de l'enfer de la mort. C'est avec Brooke Shields, Louis Diamond Phillips, Scott Glenn, Joe Morton, c'est un blague. Robin Riker et William Atherton, tu peux y aller, ça va déménager. Jeudi, sur 13e rue, à 20h50, Excès de confiance. Alors là, je vous fais la soirée Rebecca de Mornay, les gars. Excès de confiance avec Antonio Banderas et Dennis Miller, depuis Terrol en 95, suivi de L'Avocat du Diable à 22h30, un Loumet de 93 avec Don Johnson et Jack Warden. Mais il y a Rebecca de Mornay. Voilà. Et vendredi, on se termine avec sur Cine Extrême à 20h50, Les Marais de la Mort de Paul Glicker en 80, avec Ken Wall. Ken Wall, le wise guy, un flic dans la mafia, oui. Judge Reynolds, John Saxon. Alors là, c'est même pas la peine, si. C'est excellent.
Opération Dragon, hein.
Opération Dragon, bien sûr, plein d'autres. Oui. Hein. Et Annie McEnroe, donc dans Les Marais de la Mort, c'est vendredi prochain. Sur Cine Extrême, mais vendredi prochain, de toute façon, c'est SIFI à partir de 20h45, les gars. D'accord ?
C'est bien, maintenant on sait que t'es sur TPS.
Non, numéricable.
C'était Supplément Week-end, un bazar pareil. Je crois qu'on n'en a jamais eu depuis un bail.
Si.
Ah non, pas les invités qui arrivent comme ça, etc. Le planning à refaire en live et tout. Bon, on s'en fiche. De toute façon, on est pas du tout professionnel. Enfin, ceci dit, merci Nicolas Rivé d'être
Merci,
venu.
C'était super. Bonjour. Sympa, je reviens la semaine prochaine.
Ah, pourquoi pas, si tu veux, il n'y a absolument aucun souci.
On apprend plein de choses et tout, moi je suis trop content. Là.
Arrête de te moquer de nous comme ça. Si vous avez manqué le début de l'émission...
Si on peut plus rien dire de bonne foi, alors... Bon,
si vous avez manqué le début de l'émission, Thomas vous la résume de suite.
Il n'y a plus grand-chose, hein. Y a eu un gros bordel. L'arrivée impromptue de Hervé Bourrois des Illustres Inconnus. On a eu la charmante collaboration de Nicolas pour parler de bande dessinée.
De technique d'animation.
On a eu un cassage de film, hein, en règle, parce que voilà, la déception et un top horaire qui fait fausement penser à 24.
Oui, je peux pas le mettre là. Enfin bon, on se retrouve la semaine prochaine. On a dépassé de 26 minutes, donc du sport va prendre la suite. Franchement, là, je m'attendais à vraiment pire vu le ton que ça devenait. Vous pouvez réécouter tous les précédents numéros sur le site web de la radio www.radio-fmr.net avec toutes les références, toutes les infos. Et désormais aussi en podcasting, c'est pratique. Si vous avez iTunes, vous pouvez vous y abonner, c'est toujours sympa. La suite des programmes sur Radio FMR, du sport de suite, 15h, Zarma Farai, c'est du reggae, 17h, Vie d'ordure, c'est du punk, 18h, pour une fois que tu peux l'ouvrir, le numéro de la station, c'est 0561 580 580, 19h, DM, 20h, la CTRO Experience, 21h, 38 Sky, 23h, Breakbeat Experience, c'est du sport avec quelque chose à dire.
Ah ouais, parce que là, je viens de me faire réprimander comme c'est pas permis par ma femme. C'est pas Lee Major, c'est Robert Urich, Spencer for Hire, bien sûr.
Et bah merci à l'intervention de Madame Colombo, faut dire que bah femme dit toujours. Enfin bon, voilà, ceci dit, rendez-vous la semaine prochaine dans 167h35. Nous prenons l'antenne à partir de midi, donc rendez-vous, voilà. Et plan général sur le studio et nous tassons professionnellement nos feuilles. Voilà, see you.
Ciao.
Ciao. Et les pains étaient fournis par une boulangerie, j'ai oublié le nom, enfin voilà, c'était en venant.
Et délicieux.